dans une escalade et que les choses sont loin d'être terminées compte tenu des acteurs non étatiques qui sont présents sur le terrain entre le front al-Nosra, enfin qui s'appelle plus comme ça, les Kurdes et autres mouvements radicaux, qui contrôlent qui. Donc derrière cette vision optimiste dont on parlait, vous avez des acteurs qui ne sont pas forcément contrôlables, et je dirais depuis le début de la crise. L'autre question est de savoir dans quelle mesure Poutine contrôle véritablement Assad. Quelle est la marge de manœuvre d'Assad ? Et ce ne serait pas la première fois qu'il y a des initiatives syriennes qui vont à l'encontre des intérêts russes.
Alors, c'était justement une autre de mes questions. On a Moscou qui se pose en effet en arbitre, qui dit stop. Est-ce que la Russie craint une explosion de violence ? Est-ce que s'il y a une explosion de violence, la Russie a vraiment les moyens d'arrêter des affrontements entre Ankara et Damas ?
Les moyens d'arrêter entre la Syrie et la Turquie, ça impliquerait un soutien militaire à la Syrie, mais en même temps une volonté de ne pas en découdre avec la Turquie. Les relations entre la Russie et la Turquie sont extrêmement complexes, ambiguës, c'est-à-dire que dans un certain nombre de conflits, que ce soit en Libye, que ce soit avant-hier en Yougoslavie, Russes et Turcs soutenaient des clans, des groupes opposés. Mais en même temps, ils avaient un intérêt convergent de ne pas provoquer l'escalade. La condition, c'est de savoir quels sont les moyens de contrôle des pays, des groupes amis, par l'un et par l'autre. Et ça, je crois qu'il y a une certaine difficulté pour savoir est-ce que Moscou contrôle véritablement Assad.
Vous évoquiez la Libye notamment. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres dossiers internationaux dans lesquels Ankara et Moscou s'opposent. Dans quelle mesure ces autres dossiers pèsent sur les relations entre les deux pays en Syrie ?
Je dirais que là, on est véritablement dans l'ordre diplomatique. Je crois que ni Moscou ni Ankara ne sont déterminés à en découdre directement entre eux. Je pense qu'ils feront tout pour que ça n'arrive pas, et d'un côté et de l'autre.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Monsieur Romer d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'IEP de Strasbourg et spécialiste de la Russie.
Média. Yaoundé 96.2. Média. Bamako 103.3.
Avant de retrouver l'information sur Média, le point sur la couleur du ciel, la météo, c'est avec Antoine Cavallero.
Au Maroc, ce matin, des nuages pour toute la moitié nord. L'après-midi, de la pluie annoncée pour le Rif, le Saïs, le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Les températures, des nuages et du vent. À Tanger, 18 degrés, 21 pour Rabat, 22 à Casablanca, 26 degrés annoncés du côté de Fès, 26 également à Marrakech, 23 à Agadir, comptez 25 degrés à Bnimelal sous les averses l'après-midi, 27 la maximale à Laï. L'Algérie avec du soleil au nord d'une ligne Oran El Oued, quelques nuages dans l'est, du soleil donc à Oran, 19 degrés, même prévision pour Tiaret, 23 à Chlef, 18 pour Alger sous le soleil, 16 degrés à Béjaïa et Annaba, 17 à Constantine, il fera 20 degrés à Hardaya, 28 à Adrar, 24 tout au sud à Taman Rasset. En Tunisie, des nuages au nord d'une ligne El Kef Sfax, du soleil ailleurs. Le point sur le thermomètre, 16 degrés attendu à Tabarka. Même chose pour Bizerte, 18 à Tunis sous les nuages. Des nuages également à Sousse, 19 degrés, 19 à Sfax et Gabès, 17 sur l'île de Djerba et enfin 20 degrés à Tozeur. La météo en Afrique de l'Ouest, 26 degrés à Dakar, 33 à Abidjan, 39 à Bamako, 38 pour Ouagadougou, il fera 33 à Lagos. L'Afrique centrale, du soleil à Libreville et 38 degrés, des nuages à Yaoundé, 32 degrés, des orages pour Douala, 34 degrés. En Europe, des averses à Paris l'après-midi, 12 degrés, 11 pour Londres sous la pluie et le vent, 17 degrés attendus à Rome, 16 degrés à Madrid sous le soleil.
Merci d'écouter Média jeudi 20 février.